Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique juridique qui va nous emmener visiter les établissements pénitentiaires de notre beau pays. J'ai en effet eu cette idée en voyant revenir Nordal Lelandais dans l'actualité. Je vous rappelle qu'il a été condamné à plusieurs peines à raison de ses crimes et délits, perpétuité pour le meurtre atroce de la petite Maëlys, 20 ans pour celui du caporal Arthur Noyer et tout récemment, un an pour avoir agressé sexuellement une de ses petites cousines en 2017. Pour information, ces peines ne s'additionnent pas, on dit qu'elles ne se cumulent pas, elles se confondent. La plus grande englobe les autres, donc la perpétuité avec période de sûreté de 22 ans englobe les autres peines qui ont été prononcées. Mais comme il n'a pu être condamné à une peine incompressible, qu'on appelle parfois perpétuité réelle, parce qu'il ne cumulait que, entre guillemets, que une circonstance aggravante, il sortira forcément un jour. Mais enfin, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisque nous avons appris que Lelandais était devenu père en prison, ce qui n'a pas manqué de susciter une grande émotion, légitime dans les familles des victimes et plus davantage opportuniste, dans une France devenue extrêmement répressive. Il est vrai qu'à l'instar d'un Fourniret ou d'un Guy Georges, Lelandais ne fait pas partie des gens que l'on cite spontanément dans ceux qui nous attirent. Et pourtant, une part importante de femmes, je dis de femmes parce que la grande criminalité, ça reste beaucoup essentiellement une question d'hommes, éprouve de l'attirance pour ces gens et les histoires où les amoureuses d'un détenu, en ce compris des avocates ou des surveillantes de prison, sont condamnées pour avoir fait passer armes, téléphones ou drogues, ne sont pas anecdotiques. Pour certaines, on parle du complexe de l'infirmière, c'est celle qui veut sauver le pêcheur. Des échanges épistolaires suivis de visites naissent des histoires d'amour bien réelles, même s'il est assez incompréhensible de s'éprendre d'un tueur en série, voire d'un violeur multirécidiviste, cela arrive. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la majorité de ces femmes ne sont pas des paumées. On trouve des médecins, des avocates, une professeure agrégée exilée à Chicago pour se rapprocher de son amoureux, des psychologues, des assistantes sociales, des surveillantes en milieu carcéral. Pour d'autres, c'est beaucoup plus inquiétant. Ce sont des groupies excitées par la violence ou qui font de cette relation un prétexte pour attirer la lumière et les caméras, pour finir généralement par passer chez Hanouna en qualité de compagne d'eux. C'est ainsi que l'on trouvera le passage à l'acte de Monique Olivier qui devient la compagne de Fourniret et qui l'aidera dans ses crimes après avoir commencé une relation épistolaire avec lui. Après cette introduction, je voulais donc vous parler des droits des détenus, même si ça n'a pas bonne presse. On l'a vu avec Lelandais, les détenus ne sont pas nécessairement privés d'une vie de famille allant jusqu'aux relations sexuelles puisqu'il est improbable que sa nouvelle compagne soit tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et ce, même si on sait que des opérations improbables d'insémination artificielle artisanale ont lieu, être père d'un enfant est un élément qui peut permettre de raccourcir sa peine à terme. Toutefois, ces relations sexuelles sont censées se dérouler dans la légalité réglementaire. C'est pour avoir fait l'amour à la sauvage à une précédente conquête que Lelandais a été transféré de son ancienne prison à celle d'Ensisheim au Rhin, à titre de représailles. Ici, il s'agit des droits de visite au sens large. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille au moins 3 fois par semaine et les condamnés au moins 1 fois par semaine. Les visites se déroulent soit dans des parloirs ordinaires, dans une salle commune ou dans des cabines en présence du personnel pénitentiaire, soit dans des unités de vie familiale, UVF, appartements de type F2, F3, situés dans l'enceinte pénitentiaire mais séparés de la détention, ou des parloirs familiaux, salons fermés de 12 à 15 mètres carrés sans surveillance directe et où les relations intimes sont permises, même si c'est toujours quand même un petit peu glauque. Ça fait un peu penser à l'hôtel Formule 1 entre midi et 2. Au 23 juillet 2019, l'administration pénitentiaire recense 124 parloirs familiaux répartis dans 33 établissements et 170 unités de vie familiale au sein de 52 établissements. Au titre des autres droits de la famille, on va trouver le droit de se marier sans autorisation, celui de se paxer, celui de rencontrer ses enfants, même si ce n'est évidemment pas simple, d'amener des enfants en prison, voir leurs parents. On trouve également des droits civiques, tels que le droit de vote, depuis 2014. Alors pour des raisons pratiques, le système du vote par correspondance est privilégié, mais certains vont pouvoir voter lors d'une permission de sortie ou avec un isoloir et une urne au sein du lieu de détention. Par ailleurs, afin de répondre à la situation sanitaire préoccupante dans les prisons, et bien avant les problématiques du Covid, le dispositif de soins a été profondément rénové par la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. Cette loi, dont l'objectif était d'offrir aux détenus une qualité et une continuité de soins équivalentes à celles dont dispose l'ensemble de la population, a confié aux hôpitaux les missions de prévention et de soins des détenus. Chaque établissement pénitentiaire dispose d'une unité sanitaire qui dépend de l'hôpital de proximité. Ces unités reçoivent les détenus en consultation pour des soins de médecine générale, des soins dentaires ou toute autre consultation spécialisée, bien évidemment, dans un univers sécurisé, un peu comme la prison. Les portes sont fermées à clé, des surveillants peuvent être présents, bien sûr. Il existe également un établissement public de santé nationale basé à Fresnes, donc au sein de la prison, et 8 autres unités hospitalières sécurisées interrégionales implantées dans les centres hospitaliers universitaires. Ces unités reçoivent les détenus pour des hospitalisations programmées de plus de 48 heures. Sur un plan religieux, l'article 26 de la loi pénitentiaire de 2009 précise que les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux sans autre limite que celle imposée par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Ainsi, les détenus peuvent prier dans leurs cellules et y conserver les objets, les livres nécessaires à leur vie spirituelle. Ils ont le droit d'assister aux offices religieux et aux réunions culturelles. Ils peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils le souhaitent avec un aumônier de leur confession. Il faut savoir que ces aumôniers sont payés par l'administration pénitentiaire. Les entretiens ont lieu au parloir ou dans une salle polyculturelle ou en cellule hors de la présence des surveillants. Les correspondances écrites des détenus avec un aumônier de la prison sont par ailleurs, comme pour celles avec les avocats, strictement protégées et ne peuvent donc être ouvertes par les agents pénitentiaires. 7 confessions sont agréées au plan national dans les prisons, les aumôneries catholiques, israélites, musulmanes, orthodoxes, protestantes, bouddhistes et les témoins de Jéhovah. Enfin, à la suite de 3 décisions juridictionnelles de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, excusez du peu, le droit au respect de la dignité en détention a été créé par la loi numéro 2021-403, donc une loi de 2021, et elle crée un dispositif afin de garantir à tous les détenus un recours devant le juge judiciaire en cas de conditions indignes de détention. Vous avez donc un recours devant le juge des libertés et de la détention en cas de détention provisoire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore jugé, ou bien devant le juge d'application des peines en cas de condamnation, c'est-à-dire que vous êtes déjà condamné. La loi accorde un mois maximum de délai à l'administration pénitentiaire pour remédier aux conditions de détention indignes en cas de recevabilité du recours. C'est par exemple lorsque vous aurez 4 détenus dans la même cellule, alors que le grand, grand maximum toléré est de 3, même si normalement ils ne sont censés être que 2. À défaut, le juge peut ordonner soit le transfèrement de la personne, soit la mise en liberté immédiate, soit un aménagement de peine. Voilà, vous savez tout et je vous retrouverai avec plaisir sur Radio Pays Héros et RPH Sud dans 15 jours, car n'oubliez pas, vous en avez pris pour perpète et pour le coup incompressible. Au nom de la loi, une chronique judiciaire de Laurent Epaillé, avocat, écoutez les 2e et 4e mardis du mois à 12h45, rediffusion le mercredi à 9h35.